Oui, c'est-à-dire qu'on est un peu dans un cadre, on va dire, pas historique, parce que le mot avec un petit H, pas un H majuscule, mais pour tous les gens qui sont venus en vacances et pour tous les Royanais, on représente une des plus vieilles maisons de Royan, la maison anciennement Tamisier, qui était là sur le front de mer depuis les années 50, et avant, historiquement, à Foncillon, à Pontaillac, depuis le début du XXe siècle. Et donc nous, on a repris la suite avec les mêmes procédés de fabrication en 1977, d'abord mon père, et puis
José.
José, voilà. Et puis ensuite, moi, Manuel, depuis 1989. Voilà.
Et l'on retrouve la beauté de ces couleurs, de ces beaux coups.
Donc on a essayé de garder un peu une mémoire au lieu pour que les gens, quand ils reviennent, essayent d'avoir des repères. Donc des repères de couleurs, parce qu'on est toujours dans les couleurs pastel, jaune, bleu, jaune, vert, rose, qui sont les couleurs un peu des années 50-60. Et puis aussi dans les grands volumes, on est l'un des rares établissements du front de mer à avoir gardé, à n'avoir pas fait de mezzanine et avoir gardé les grands volumes pour avoir toujours ce même repère architectural des années 50.
Avec cette façade, là c'est le spectacle qui se passe là.
Oui, disons qu'on est aussi un des rares établissements en France à fabriquer tous nos bonbons et devant les gens. À part certaines fabrications qui se passent derrière dans le laboratoire, comme le nougat blanc, les guimauves, les pâtes de réglisse, sinon tout ce qui est sucre cuit, les berlingots, les sucres d'orge, le bois cassé, là qu'on va faire devant vous au chocolat, tout ça on le fait devant les gens, donc on a au moins déjà l'odeur. Et la vue.
Alors, le bois cassé, là, c'est l'opération qui va être déterminante, là, tout d'un coup.
Oui, parce qu'on va verser dans ce qu'on appelle une venue, c'est-à-dire le sirop qui est dans la casserole, qui est cuit jusqu'à plus de 150 degrés. Et donc, on le verse sur le marbre. Et ensuite, on va pouvoir le travailler. Donc, suivant la façon dont on le travaille, on va pouvoir faire ou du bois cassé, du berlingot ou du sucre d'orge. C'est la façon dont on le travaille qui détermine après le bonbon qu'on veut faire et la cuisson, forcément.
Donc là, c'est une opération délicate, là.
Oui, parce que là, au niveau brûlure, on serait largement un bon troisième degré. Donc, il faut faire très attention. On met des gants pour verser parce que les casseroles sont très conductrices de chaleur. Et donc là, il faut faire très attention. Mais enfin, bon, on a un chef irlandais qui s'appelle Patrick, qui a une grosse expérience de chocolat et qui est venu nous aider cet été pour fabriquer les bonbons.
Parce qu'on vient du monde entier chez vous.
En tout cas, on expédie surtout en France. On a un site internet qui expédie en France partout. Mais on a beaucoup de gens dont les enfants sont à l'étranger et qui envoient des bonbons à leurs enfants pour leur rappeler leurs souvenirs d'enfance quand ils sont venus à Royan quand ils étaient petits.
Deuxième opération, là, on va laisser refroidir un peu la chose.
Oui, parce que là, on est à 150, donc on ne va pas s'amuser à mettre la main dedans. Donc on va laisser refroidir jusqu'à 80-90 degrés pour commencer à le travailler. Du temps des tamisiers ou même de mes parents, au début, il y avait encore certains bonbons qui étaient revendus. Nous, on s'est fait un challenge, c'est-à-dire de tout fabriquer de A jusqu'à Z. Et donc, on fabrique tous les bonbons, tout ce qui est fait pour les glaces, toutes les glaces évidemment, même les glaces italiennes et aussi tous les cornets. Parce qu'en fin de compte, les cornets donc, sont fabriqués ici, aujourd'hui par Nicolas. Donc c'est du sucre, du beurre, de la farine, de l'eau. Et donc plus on met de beurre, évidemment, meilleur c'est, mais plus c'est fragile. Donc il faut faire très attention. Il y a un petit tour de main. Ça, on chauffe les mains un peu au début quand on n'a pas l'habitude, quand on ne maîtrise pas un geste. Donc on fabrique entre 100 et 130 000 cornets dans une saison. Donc évidemment, ils sont plusieurs à se relayer. Il n'y a pas que Nicolas qui fait ça. Mais il en fait déjà, lui, un bon nombre à lui tout seul. Et c'est un petit tour de main. On tourne autour d'un petit axe en bois. On fait un rond de pâte et qu'on tourne autour et on prend la forme du cornet et donc on fabrique ainsi tous nos cornets de cette manière.
Donc opération éminemment délicate.
Voilà, délicate et surtout, avant de maîtriser le geste, ne pas avoir les mains sensibles, surtout ça.
Juste à côté, évidemment, ce sont les glaces,
oui.
Maître glacier également.
Oui. Donc les glaces, c'est un univers. Le point commun qu'il y a entre le sucre et entre la confiserie et les glaces, c'est le sucre, forcément. Et donc, par rapport à l'époque où mon grand-père faisait des bonbons, ce qui a changé le plus, c'est pas la fabrication des bonbons, c'est la fabrication des glaces. Parce que moi, quand j'étais petit, je me rappelle, on coupait les zestes de citron sur la place Brochard où mon grand-père faisait des glaces à Rosse-les-Bains. Donc là, on a éminemment changé au niveau hygiène, au niveau technologie. Donc maintenant, on fait des recettes de glaces qui sont sur l'ordinateur. Ça nous va beaucoup plus vite. Mais ce qui nous différencie des autres glaciers, c'est qu'on fabrique toutes nos glaces de A jusqu'à Z. Et donc, c'est dans la tête des gens, il y a des fois une confusion entre glace artisanale, etc. Nous, ce qu'il faut avoir, c'est surtout être un glacier fabricant et faire une recette pour chaque glace en essayant de travailler le maximum de produits frais quand c'est possible. Parce que c'est pas toujours possible. Par exemple, je vous prends un exemple, le fruit de la passion, eh ben on ne dit pas qu'on travaille sur le frais parce que c'est pratiquement impossible, il faudrait trop de temps. C'est un sujet, ça, la glace fruit de la passion, si vous faites en fruits frais, c'est un sujet de brevet de maîtrise ou de CAP de glacier parce que vous avez le temps, mais sinon c'est impossible. Mais tout ce qu'on peut faire en frais, en fruits, les fraises, les ananas, les fraises par exemple viennent de Dordogne, on mélange tout plein de sortes de fraises, la siscape, la darcélèque, la gariguette, la mara, et on fait notre goût de fraise. Donc en fin de compte, ça ne sera peut-être pas la meilleure fraise, mais ce sera celle qui sera chez nous. Et donc vous ne trouverez jamais le même goût ailleurs. C'est ce qui nous différencie des autres surtout.
Voilà, c'est ce qui fabrique les souvenirs.
C'est ce qui fabrique les souvenirs parce qu'en fin de compte, on crée notre goût. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'au niveau bonbon ou au niveau glace, on retrouve un goût industriel ou qu'on voit ailleurs. Et que les gens, ce goût soit marqué comme la Madeleine de Proust, qu'elle suive la personne tout au long de sa vie et qu'elle en ait un souvenir nostalgique et qu'il soit lié à l'établissement. C'est pour ça que les gens viennent ici depuis plusieurs générations. Dans tous les bonbons qu'on fait, les berlingots, les sucres d'orge, même les pâtes de réglisse qu'on fait à l'ancienne avec de la gomme arabique et du sucre de réglisse, la guimauve où on rajoute du sucre inverti et de la gélatine, tous ces bonbons ont cette même base qui est le sirop avec du glucose, du sucre et de l'eau. Et suivant la forme qu'on travaille et la cuisson ou ce qu'on rajoute, on va faire des bonbons très différents et on peut même faire toutes les formes différentes puisqu'on peut faire aussi du sucre artistique, on peut faire des fruits et on peut faire des sucettes, tout dépend du moule. Donc on peut faire des sucettes petites comme celle-là ou grandes comme celle qu'on a faite en 1991 et qui était la plus grande sucette du monde qui faisait 6,09 m à l'époque. Et donc on a eu la chance de figurer plusieurs années dans le Guinness Book. Et donc vous savez que quand vous battez un record dans le Guinness Book, ça n'entraîne pas automatiquement l'apparition. Notamment, on a eu cette chance-là d'être plusieurs années dans le Guinness Book et d'avoir notamment une photo différente. Donc c'était de l'éphémère. Donc le soir même, on a cassé cette sucette. Elle faisait plus de 130 kilos. Et donc on l'a cassée le soir même et elle était à la cerise.
Goût du challenge avec tous vos collaborateurs.
Oui, tout à fait. C'était surtout avec mon collaborateur principal et ami qui était Monsieur Bernard Garnier qui est décédé depuis. C'était une idée à lui et c'est vrai que c'était un challenge. C'était pour faire plaisir aux enfants et après c'était un challenge technique et technologique parce que ça n'a rien d'évident au niveau résistance de faire une sucette qui fasse 6 mètres de long. Donc on a mis 3 jours et demi et nuit comprise.
On l'entend bien lorsque vous nous en parlez. D'où elle vient cette passion?
Donc moi, c'est déjà des générations, puisqu'en fin de compte, c'est un peu de l'atavisme. Mon grand-père était confiseur. Mon grand-père était confiseur et glacier, mon père confiseur. Donc en fin de compte, je dis souvent quand je fais des visites d'entreprise ici au sein de la confiserie que je suis né dans le sucre. Et puis c'est vrai que j'étais parti pour faire totalement autre chose. J'étais parti pour faire des études littéraires et en fin de compte, le sucre m'a rattrapé. Et depuis, je ne regrette pas parce que s'il y a un contact très sensuel avec le sucre, vous êtes un bon confiseur si vous avez un rapport avec le sucre. Il y a vraiment, c'est pas anodin et c'est quelque chose de très sensuel.
Vous le disiez, vous aimez faire partager et montrer aussi votre métier aux enfants spécialement.
Oui, aux enfants, parce qu'on a souvent, d'abord parce que souvent les clients commencent ici enfants, et qu'après ils gardent, les gens aiment beaucoup venir avec leurs enfants ou leurs petits-enfants en leur disant qu'ils sont venus là quand ils étaient petits. Et puis évidemment parce que la confiserie et tout ce qui est sucre est lié à l'enfance, à la nostalgie, à la récompense, aux vacances. Les gens ont des souvenirs de Royan, de Guignol et de la confiserie Tamisier ou Lopez. Alors des fois qu'ils repartent, ils ne savent pas qu'il y a une église contemporaine à Royan parce que pour eux, ce sont des souvenirs d'enfance. On revient vraiment à la Madeleine de Proust. Hein. Les gens quand ils viennent ici doivent retrouver des repères et des repères d'enfance et forcément tout ce qui est lié au sucre est lié à la douceur de l'enfance. Le bruit des ciseaux, c'est forcément un bruit qui rythme la confiserie. Là, on est en train de couper des niniches. Donc, les niniches, il y a une origine, nous, qui est l'origine bordelaise. J'ai une référence de niniches dans un Tour de France des spécialités qui date de la fin du 19e siècle. Ça a été repris après par un confiseur à Quiberon qui fait des niniches, mais qui sont des sucettes de caramel dur, donc qui est au beurre salé. C'est pas la même chose. Nous, c'est vraiment un caramel mou avec du lait, du beurre, du sucre et du parfum. Donc, on en fait un caramel mou, c'est-à-dire qu'on le cuit moins. C'est-à-dire que les sucres d'orge et les berlingots sont très cuits, donc ils durcissent très vite. Et les niniches, elles, comme elles sont cuites moins, et donc elles restent toujours molles, même quand elles sont froides. Et c'est une base de caramel mou avec du lait, du beurre, du sucre et des arômes naturels et des huiles essentielles.
Alors, on connaît des soirs de feux d'artifice ou de choses comme ça où il y a 1000 personnes devant.
1000, je ne sais pas. Enfin, je sais que des fois, il y a 100 000 personnes sur la grande conche pour le feu d'artifice. Mais c'est vrai que par contre, ils viennent tous en même temps, donc nous on appelle ça une vague humaine parce qu'ils se retournent et puis donc on sait qu'il y en a beaucoup qui vont venir à la confiserie. Alors donc ou pour des glaces ou des confiseries, là forcément ces jours-là il y a quand même un petit peu d'attente. Disons que pour moi c'est pas forcément les meilleures journées parce qu'on n'a pas le temps, j'aime beaucoup discuter avec les gens et en fin de compte là ces jours-là on n'a pas le temps de discuter, on garde de toute façon la même qualité de service et tout, mais on est obligé d'aller très vite, donc on n'a pas le temps de s'attarder, et on est obligé de servir très très vite. C'est pas des jours qui sont forcément très agréables quand vous aimez discuter avec vos clients.
Vous avez comme ça des bons souvenirs, évidemment, de contact avec votre clientèle?
Ah oui, non, disons que nous, on a des familles qui viennent de génération en génération. On a des gens qui nous envoient des cartes postales à Noël. On a les gens dont les enfants viennent. Et puis des enfants qui viennent nous faire la bise. Et quand ils arrivent le premier jour des vacances, bon, c'est très, très fréquent. Que ce soit avec moi, avec mon épouse, avec des salariés qu'on a depuis pas mal d'années. On a vraiment des relations très, très fortes. Et quand on réouvre le magasin au mois de mars, généralement les gens poussent un soupir de soulagement parce que c'est Lopez est enfin ouvert.
La saison peut commencer.
Voilà, la saison peut commencer et c'est ça, on signifie pour eux la fin de l'hiver.
Alors là, c'est une opération délicate qui va commencer.
Oui, délicate parce qu'en fin de compte, nous sommes en train de fabriquer du bois cassé. Donc c'est un sucre cuit, donc très très chaud, comme on a vu tout à l'heure, hein, plus de 150 degrés. Et donc on a attendu un petit peu qu'il refroidisse et on va commencer à le travailler. Puisqu'en fin de compte, je vous ai expliqué souvent qu'avec la même base, suivant la façon dont on travaillait les formes ou la cuisson, on arrivait à différencier des bonbons. Et bien là, on va faire du bois cassé, ce qu'on appelle un sucre satiné. Là, on le travaille au crochet. Et là, Christopher, le chef irlandais, est en train de souffrir parce que forcément le sucre est encore très très chaud, il a plus de 90 degrés et donc ça brûle les mains. Et donc on fait après sur le même principe qu'une pâte feuilletée, c'est-à-dire qu'on va travailler le sucre à la main en petits morceaux et on va faire là par contre sur un peu, oui, comme une pâte feuilletée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va rabattre le sucre un morceau sur l'autre, ça va faire un des petits trous qui sera à l'intérieur et qui donnera la consistance du bois cassé qui est un bonbon feuilleté. Le bois cassé, donc c'est vraiment picto-charentais, puisqu'en fin de compte, c'est Monsieur Boutinon qui était à Saint-Jean-d'Angély, qui l'a fait, je pense, le premier avant la Première Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre mondiale, pardon, la guerre 39-45. Et donc, moi, mes parents, dans ma famille, ça fait plus de 70-80 ans qu'on connaît la façon de travailler le bois cassé, qu'on le décline à tous les parfums.
Alors c'est là où on les trouve dans toutes ces couleurs.
Hein. Ouais, disons qu'en fin de compte, on a sûrement été aussi dans les premiers à décliner tous les bonbons à tous les parfums. C'est-à-dire qu'il y a non seulement la recette du bonbon, mais il y a aussi le fait que ce soit pour les couleurs ou pour les goûts, les saveurs, de tenter en bonbon des choses originales. On revient sur beaucoup de parfums comme la violette, qui sont le coquelicot, qui sont des parfums très anciens et qu'on remet au goût du jour et que les gens aiment bien, et notamment les enfants. La confiserie, donc on a un site internet et évidemment on envoie de plus en plus, on fait de la confiserie de ce qu'on appelle de l'événementiel, c'est-à-dire que par exemple pour les mariages, les gens remplacent les dragées par des confiseries. Donc, et en plus, surtout les gens qui connaissent la confiserie à Royan ont des souvenirs nostalgiques avec cette confiserie. Et donc, le jour de leur mariage, les jeunes filles veulent avoir des bonbons de chez Lopez parce qu'elles y ont été quand elles étaient petites. Donc, c'est pour ça qu'on en voit dans à peu près toute la France. Et notamment pour les mariages. Pour du côté événementiel, on a envoyé un orchestre philharmonique qui jouait du Gainsbourg. C'était assez original, dans l'est de la France. Une soixantaine de sucettes à l'anis parce que c'était la chanson de Gainsbourg. Donc on fait tout ce qui est événementiel, on fait des sucettes à la demande, c'est-à-dire des sucettes de la taille d'une personne. Et donc les gens se rendent compte qu'en cherchant sur le net, qu'il y a très peu de confiseries en France qui font autant de bonbons d'une manière artisanale et devant le client.
Vous avez une idée du nombre de niniches, par exemple, que vous pouvez vendre pendant une saison?
Non, j'ai aucune idée. Enfin, si, il faudrait compter le nombre de bouts de bois, mais c'est surtout, on sait qu'entre la glace et puis les bonbons, on fait donc plusieurs dizaines de tonnes de sucre par an.
La maison Lopez, pendant l'été, c'est une équipe de combien de personnes?
Donc sur le laboratoire de glace, la confiserie et donc les Caraïbes à côté, qui est l'endroit sur table, on est une cinquantaine. On est trois personnes à l'année et une cinquantaine au pic, on va dire, c'est-à-dire au mois d'août.
Tout au long de ce mois de juillet, on peut visiter?
Oui, tout à fait. On peut. Donc il y a déjà plus pas mal de dates qui sont prises, mais donc on peut réserver pour avoir une visite d'entreprise. Donc c'est donc des visites qui sont payantes, c'est 3 euros pour les adultes et 2 euros pour les moins de 16 ans, mais c'est une visite qui dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Je vous explique quand même toute l'histoire du sucre, des bonbons, et je fabrique devant vous des berlingots, des sucettes. Vous avez une dégustation gratuite et on voit aussi toute la glace, la fabrication de la glace dans le petit laboratoire de démonstration avec une dégustation aussi. Donc il faut réserver par groupe de moins de 10 personnes et à l'avance forcément, et donc sur le site internet ou à la confiserie Lopez.
Et ça seulement pendant le mois de juillet, hein.
Après, au mois d'août, on est un petit peu trop occupé et ça recommence début septembre.